Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point sur l'environnement.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire. Et on commence avec les titres. Le vice-président Yusuf Kalla espère que le conflit d'Iran et l'Arabie Saoudite peuvent être terminés via le sommet de Loki. Pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN, des artisans de batik à Jember préparent à la stratégie du marketing. Pertamina International est prête de produire 700 000 barils. Pelindo 4 a ajouté la route d'expédition vers la Corée et le Japon. La présence de la communauté économique de l'ASEAN, les travailleurs étrangers peuvent entrer plus facilement en Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement de l'Indonésie a été demandé de jouer le rôle actif dans la réduction des conflits entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. À cette fin, le gouvernement indonésien a pris des mesures. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que la ministre indonésienne des Affaires étrangères a contacté son homologue de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, aussi bien le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique. Le vice-président Yusuf Kalla, mardi, a déclaré que le conflit entre les deux pays devrait être résolu afin de ne pas conduire à la guerre. Le vice-président a ajouté que l'Indonésie a également demandé que ce conflit pourrait être résolu via le sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN ou CEA au début 2016 rend les petites et moyennes entreprises à Jember, Java East à faire des innovations. C'est ce qu'a effectué un artisan du batik typique de Jember, Irian Hairini Megawati. Selon Irian Hairini, elle présente un motif différent de batik pour répondre à la demande du marché. Jusqu'à présent, les produits de batik sont bien reçus par certains pays comme les Pays-Bas, le Venezuela, la France et la Grande-Bretagne. Il a utilisé la technologie pour commercialiser leurs produits de sorte que la production pourrait être vue à l'étranger. Cependant, le chef des petites et moyennes entreprises de Jember, Mirfano, a déclaré que la mise en œuvre de la CEA depuis le début 2016 a été un défi pour le gouvernement à protéger des petites entreprises. PT Pertamina International, Exploration et Production, une filiale de PT Pertamina qui gère les champs de pétrole et de gaz à l'étranger, projette une augmentation de la production de 500 000 barils de pétrole par jour en 2025. Le président directeur de PT Pertamina International, Slamet Riyadi, est optimiste. Dans les 10 prochaines années, l'entreprise peut produire 700 000 barils de pétrole par jour, soit à partir de blocs de pétrole et de gaz qui existent aujourd'hui, à savoir en Irak, en Malaisie et Algérie, ainsi que l'ajout de nouveaux actifs. Slamet Riyadi a expliqué que pendant 2015, la réalisation de la production a atteint 113 000 barils de pétrole par jour, 20% plus élevé que la cible de la société de portefeuille à l'entreprise d'un montant de 93 000 barils. De cette production, un total de 39 000 barils de pétrole par jour ont été obtenus à partir de l'Algérie, puis des champs de pétrole de l'Irak qui contribuent 36 000 barils de pétrole par jour et à partir de blocs de pétrole et de gaz en Malaisie contribuent 38 000 barils de pétrole par jour. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. À partir le 1er janvier 2016, PT Pelindo 4 a ajouté deux services d'expédition directe vers les pays destinataires d'exportation et d'importation, à savoir la Corée et le Japon, depuis le début juste pour Xiamen, la Chine et Hong Kong. Le directeur de PT Pelindo 4, Doso Agung, dans un communiqué de presse à Jakarta le lundi, a déclaré que l'ajout des deux pays destinataires d'exportation et d'importation était en ligne avec le nombre élevé des cargaisons d'exportation, notamment à l'est d'Indonésie, vers le territoire de la Chine, la Corée et le Japon. Il espère que l'ajout de la route sera en mesure d'augmenter les exportations de l'est d'Indonésie vers la Chine, la Corée et le Japon, sont les pays avec la plus grande économie de la région de l'Asie et du Pacifique. La présence de la communauté économique de l'ASEAN fait des travailleurs étrangers peuvent entrer plus facilement en Indonésie. Avec la communauté économique de l'ASEAN, cela signifie qu'il y a des règlements sur l'utilisation de main d'œuvre étrangère mandatés par la loi numéro 13 l'année 2003 sur la main d'œuvre ayant le potentiel n'est plus valide. Le secrétaire général de l'Organisation indonésienne du travail, Timbul Siregar, a déclaré mercredi que la présence des travailleurs étrangers dans l'ère de la communauté économique de l'ASEAN n'est plus dans le cadre du transfert de technologie et de l'expertise, mais les travailleurs étrangers sont présents seulement pour travailler comme les autres travailleurs indonésiens. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Les exécutions en Arabie Saoudite provoquent de nouvelles tensions avec l'Iran ». Les nouvelles tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite apparaissent après l'exécution du chef religieux chiite, le Cheikh Al-Nimr, le samedi. L'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après que des manifestations iraniennes ont attaqué des représentations diplomatiques saoudienne à Téhéran. Al-Nimr a été exécuté avec 46 autres condamnés à mort, y compris des membres de Al-Qaïda soupçonnés d'incitation à la violence contre la police. L'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux géants du pétrole du Moyen-Orient, ont été en concurrence depuis longtemps pour influencer idéologique entre les sunnites que les chiites dans cette région. La guerre d'influence entre les deux pays est évident dans le conflit syrien et le Yémen. La guerre de Syrie est aussi transparente, montre le soutien des deux grandes nations. L'Amérique soutient l'Arabie Saoudite. L'expression de préoccupation est venue de différents pays. Ils sont préoccupés par la propagation du conflit sectaire, même jusqu'à d'autres régions. La rupture des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre autres, met en danger les efforts de la coalition internationale pour concilier la Syrie. Washington, via le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, John Kirby, a exhorté les deux pays à prendre des mesures pour désamorcer les tensions. Cependant, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré lundi que Moscou était préoccupée par l'escalade des tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La Russie a déclaré qu'elle était prête à devenir un médiateur pour les deux pays pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Le gouvernement de l'Indonésie par le ministère des Affaires étrangères a également exprimé sa préoccupation sur la détérioration des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. En outre, la ministre des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi cherchera la meilleure solution en communiquant avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran et l'Arabie saoudite. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Christiawa Nasir, a déclaré à Tempo récemment que le gouvernement indonésien a appelé toutes les parties à éviter les actions qui peuvent provoquer l'escalade de la situation et peut mettre en danger la stabilité et la sécurité de la région. L'exécution de l'imam Shid a provoqué la colère des Shid de la région, mais l'exécution des dizaines de membres de Al-Qaïda dans le même temps donne aussi un message que la violence commise par les sunnites ne peut pas être tolérée dans ce pays. Ce fait peut être considéré pour éliminer le soupçon sectaire et de réaliser par la force. La famille de Nimr al-Nimr a appelé la communauté chiite pour exprimer la déception par des moyens pacifiques. Ainsi, les pays du Moyen-Orient peuvent se concentrer contre l'interférence régionale réelle, c'est ISIS. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous. On va écouter maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec les événements de la Grande-Bretagne qui a reconnu la souveraineté de la République populaire de Chine, de sorte que Taïwan a rompu les relations diplomatiques. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong a annoncé la fondation de la République populaire de Chine avec Beijing comme capitale. Le gouvernement de Mao a établi des relations avec l'Union soviétique, de sorte que la nuit suivante, le gouvernement soviétique a exprimé sa reconnaissance à la République populaire de Chine et a rompu ses relations diplomatiques avec le gouvernement de la République nationaliste de Chine à Taïwan, dirigée par Chiang Kai-shek. L'Inde a reconnu la souveraineté de Chine le 30 décembre 1949 et suivi par l'Angleterre le 6 janvier 1950. Lorsque les Britanniques reconnaissent la souveraineté de la République populaire de Chine, en même temps le gouvernement de la République nationaliste de la Chine ou Taïwan a rompu les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Chers auditeurs, nous continuons avec les événements de Pan Am, la première compagnie aérienne commerciale qui sert des routes autour de la Terre. Pan Am a été fondée le 14 mars 1927. Pan America Airways est devenue l'une des premières compagnies aériennes commerciales servant la ligne de vol autour de la Terre. En 1947, la compagnie aérienne a commencé à s'opérer le service autour du monde. La route de vol comprend de San Francisco, avec des arrêts à Honolulu, Tokyo, Hong Kong, Bangkok, Manille, Calcutta, Delhi, Beyrouth, Istanbul, Francfort, Londres et enfin New York. Exactement le 6 janvier 1970, ce service à travers le monde se réalise vraiment, la route de New York à New York, avec l'avion de Boeing 707. Le début des années 1970 a été un triomphe de la compagnie aérienne. Avant la crise pétrolière de 1973, affectant le secteur de transport aérien global, le 8 janvier 1991, Pan America Airways a été officiellement déclaré en faillite. Chers amis, nous terminons l'événement d'aujourd'hui dans l'histoire avec des événements qui ont eu lieu le 6 janvier 1977. Une grande manifestation à l'Iran qui a soutenu l'imam Khomeini. La grande manifestation a été faite par les résidents de plusieurs villes en Iran, après la publication de l'article dans le journal Etelat qui a insulté Imam Khomeini. Le régime Shah Pahlavi, qui était au pouvoir à ce moment en Iran, a publié cet article pour réduire l'amour des gens à l'imam Khomeini. Au contraire, le peuple iranien est très en colère et a continué à faire des manifestations massives. Un an plus tard, la révolution islamique dirigée par l'imam Khomeini a obtenu la victoire et Shah Pahlavi a été saché du pouvoir. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serge Brantin, pour la rubrique suivante, voici donc la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre « La gestion de la banque de déchets basée sur en ligne ». Les problèmes de déchets doivent être surmontés à l'action réelle et la coopération de toutes les couches de la communauté et la banque de déchets pourrait être une solution. La banque de déchets est le système de la gestion des déchets secs qui implique la participation active de la société. Le système de la banque de déchets va accueillir, trier et distribuer les déchets à la valeur économique sur le marché de sorte que le public a l'avantage d'économiser les déchets. Depuis l'an 2011, la banque des déchets se développe rapidement en Indonésie. Jusqu'à l'an 2015, le nombre de villes qui développent les banques de déchets a augmenté de 99 villes à 129 villes en augmentant le nombre d'unités des banques de déchets de 1640 unités à 2861 unités avec le nombre total des déposants de 175413 personnes. Pendant ce temps, le nombre de déchets gérés par la banque de déchets a augmenté à partir de 2347,8 tonnes par mois à 5551 tonnes par mois avec une valeur totale de la transaction a augmenté de 15 milliards à 34,3 milliards roupiah par mois. L'Institut du Centre d'incubation des affaires à petite échelle, fondé par l'Association des intellectuels musulmans, a initié l'application des finances de la banque des déchets intégrée en ligne dans trois villes de l'ouest de Java. Le système de la banque des déchets en ligne a été lancé depuis septembre 2015 à Bandung, Java West. Maintenant, le système de transaction de la banque des déchets en ligne à Bandung a autant que 130 points et 260 points en ville de Depok. Le système en ligne de la banque des déchets a été lancé pour la première fois à Bekasi au début de l'année 2016 à Ganggamprit, le village Jatiwaringin, le district Pondok Gede. Le système de gestion financière de la banque des déchets en ligne a adopté le système des institutions financières professionnelles comme aux banques conventionnelles en général. La gestion d'enregistrement sera faite à travers le système en ligne intégré avec le système de paiement. Les dossiers financiers comme la vérification des solides, les transactions entre les membres de la clientèle peuvent être faits à travers les applications de téléphone intelligent. La banque des déchets en ligne ne joue pas seulement un rôle dans la réduction de la quantité de déchets et de créer un environnement plus propre, mais aussi un moyen de don. Selon le président de la coopérative de Sharia, Fadri Alwin Siregar, la banque des déchets va pousser la sensibilisation du public à assainir l'environnement. Toutefois, elle soulève aussi la conscience sociale. Les communautés peuvent fournir des ordures à la mosquée qui seront ensuite gérées dans une banque de déchets. Antara a rapporté que les clients de la banque apporteront les déchets secs qu'ils les vendront aux gestionnaires avec une valeur d'1 000 roupiah par kilogramme. Pendant ce temps, si vous utilisez le système en ligne, ils sont tenus de régler le type de déchets qu'ils vendront, comme le plastique, bouteilles en plastique, les bouchons de bouteilles et d'autres. Parce que chacun a des prix différents de manière à fournir plus d'avantages aux clients. Alwin dit, actuellement, plus de 60 résidents ont été enregistrés en tant que clients avec des recettes totales ₹1 million par mois de déchets qu'ils gèrent. Le Centre d'incubation des affaires à petite échelle développe deux applications, à savoir l'application de la banque de déchets de l'Indonésie pour la gestion de la banque de déchets et l'application appelée VIP Mobile à ses clients. Le directeur du Centre d'incubation des affaires à petite échelle, Asli Khan Burhan, a dit que les employés de la banque de déchets peuvent enregistrer tous les déchets secs. Ensuite, il sera converti automatiquement en solde. Le solde sera utilisé pour acheter l'impulsion électrique ou un téléphone mobile et de payer les factures d'électricité directement par SMS ou application Android. Le directeur général de la gestion des déchets solides, les déchets dangereux et des substances toxiques du ministère de l'Environnement et des Forêts, Tuti Mintaksi, a déclaré que du point de vue de l'économie du peuple, économiser de l'argent à partir de la banque de déchets et des revenus supplémentaires provenant de la vente de compost et des produits créatifs à partir de déchets sont de réels avantages de la banque de déchets. Le développement de cette banque de déchets doit être en élan initial de favoriser la conscience collective du peuple pour commencer à trier le recyclage et l'utilisation des déchets, car les déchets ont une assez bonne valeur de vente, de sorte que la gestion écologiquement rationnelle des déchets devient une nouvelle culture de l'Indonésie. C'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Le gouvernement de l'Indonésie a été demandé de jouer le rôle actif dans la réduction des conflits entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. À cette fin, le gouvernement indonésien a pris des mesures. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que la ministre indonésienne des Affaires étrangères a contacté son homologue de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, aussi bien le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique. Le vice-président Yusuf Kalla, mardi, a déclaré que le conflit entre les deux pays devrait être résolu avant de ne pas conduire à la guerre. Le vice-président a ajouté que l'Indonésie a également demandé que ce conflit pourrait être résolu via le sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN ou CEA au début 2016 rend les petites et moyennes entreprises à Jember, Javaès à faire des innovations. C'est ce qu'a effectué un artisan du batik typique de Jember, Irian Hairini Megawati. Selon Irian Hairini, elle présente un motif différent de batik pour répondre à la demande du marché. Jusqu'à présent, les produits de batik sont bien reçus par certains pays comme les Pays-Bas, le Venezuela, la France et la Grande-Bretagne. Il a utilisé la technologie pour commercialiser leurs produits de sorte que la production pourrait être vue à l'étranger. Cependant, le chef des petites et moyennes entreprises de Jember, Mirfano, a déclaré que la mise en œuvre de la CEA depuis le début 2016 a été un défi pour le gouvernement à protéger des petites entreprises. PT Pertamina International, Exploration et Production, une filiale de PT Pertamina qui gère les champs de pétrole et de gaz à l'étranger, projette une augmentation de la production de 500 000 barils de pétrole par jour en 2025. Le président directeur de PT Pertamina International, Slamet Riyadi, est optimiste. Dans les 10 prochaines années, l'entreprise peut produire 700 000 barils de pétrole par jour, soit à partir de blocs de pétrole et de gaz qui existent aujourd'hui, à savoir en Irak, en Malaisie et Algérie, ainsi que l'ajout de nouveaux actifs. Slamet Riyadi a expliqué que pendant 2015, la réalisation de la production a atteint 113 000 barils de pétrole par jour, 20% plus élevé que la cible de la société de portefeuille à l'entreprise d'un montant de 93 000 barils. De cette production, un total de 39 000 barils de pétrole par jour ont été obtenus à partir de l'Algérie, puis des champs de pétrole de l'Irak qui contribuent 36 000 barils de pétrole par jour et à partir de blocs de pétrole et de gaz en Malaisie contribuent 38 000 barils de pétrole par jour. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. À partir le 1er janvier 2016, PT Pelindo 4 a ajouté deux services d'expédition directe vers les pays destinataires d'exportation et d'importation, à savoir la Corée et le Japon, depuis le début juste pour Xiamen, la Chine et Hong Kong. Le directeur de PT Pelindo 4, Doso Agung, dans un communiqué de presse à Jakarta le lundi, a déclaré que l'ajout des deux pays destinataires d'exportation et d'importation était en ligne avec le nombre élevé des cargaisons d'exportation, notamment à l'est d'Indonésie, vers le territoire de la Chine, la Corée et le Japon. Il espère que l'ajout de la route sera en mesure d'augmenter les exportations de l'Est d'Indonésie vers la Chine, la Corée et le Japon, sont les pays avec la plus grande économie de la région de l'Asie et du Pacifique. La présence de la communauté économique de l'ASEAN fait des travailleurs étrangers peuvent entrer plus facilement en Indonésie. Avec la communauté économique de l'ASEAN, cela signifie qu'il y a des règlements sur l'utilisation de main d'œuvre étrangère mandatés par la loi numéro 13 l'année 2003 sur la main d'œuvre ayant le potentiel n'est plus valide. Le secrétaire général de l'Organisation indonésienne du travail, Timbul Siregar, a déclaré mercredi que la présence des travailleurs étrangers dans l'ère de la communauté économique de l'ASEAN n'est plus dans le cadre du transfert de technologie et de l'expertise, mais les travailleurs étrangers sont présents seulement pour travailler comme les autres travailleurs indonésiens. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci à vous d'écouter notre antenne La Voix d'Indonésie. Dans l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui, nous vous présentons la maison traditionnelle d'Oulu. Alors, soyez toujours avec nous, La Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Outre les ondes courtes, vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Sergita, la maison d'Oulu est une maison traditionnelle à l'amont de la rivière de Moussi, dans la province de Sumatra du Sud. Oulu vient d'un mot d'Ouluan qui signifie le amont. Ouluan est aussi le nom des personnes qui vivent à la rivière Moussi en amont. Toutes les maisons d'Oulu sont fabriquées à partir de bois. La partie inférieure est soutenue par le tronc d'arbre d'Ounglen. Ce tronc d'arbre est censé de persister pendant des centaines d'années. La maison d'Oulu est résistante au tremblement de terre. La conception de la structure de la fondation d'une maison d'Oulu est une clé pour permettre à cette maison de ne pas être facilement effondrée lors d'un séisme. Les pôles sont placés sur un tas de pierres, de sorte que ces pierres fonctionnent comme une roue. S'il y a un tremblement de terre, la maison balancée seulement pas effondrera. Sergita, la construction de la maison d'Oulu doit suivre certaines règles. Sa construction devrait être face à l'avant de la ligne d'écoulement de l'eau. Il est destiné à rendre la maison libre des inondations soudaines qui peuvent venir à tout moment. En outre, la construction des maisons devrait également suivre le système Oulu-Oulak ou Ilir. Lorsque la terre pour la construction de la maison est encore assez large et le propriétaire projette de construire une autre maison d'Oulu, les maisons devraient être construites dans la zone la plus en amont. Le système Oulu-Oulak ou Ilir n'est pas seulement une règle pour construire la maison, mais aussi pour construire socialement une salle. La maison à l'avant ou en amont est pour les gens seniors dans la ligne de la famille et ainsi de suite jusqu'à la maison la plus en aval est occupée par les plus jeunes descendants. Ce système est également valable lors de la division d'espace de la maison. La maison d'Oulu est divisée en trois parties, à savoir la salle avant, un salon et une arrière-salle. Les trois salles sont divisées en certaines parties telles que Garang ou Lintut, Haluan et Kakudan, salle Gedongan ou Ambin et la cuisine. Garang ou Lintut est une salle qui fonctionne comme un lieu pour bavarder entre les membres de la famille dans l'après-midi après avoir fait le travailleur coutumier. Pendant ce temps, Haluan et Kakudan est une salle spéciale qui est utilisée comme une aire de repos. Haluan est pour les hommes, tandis que Kakudan pour les femmes. Gedongan ou Ambin est situé au centre de la maison d'Oulu, dont le plancher est plus haut que celui des autres salles. Cette salle est utilisée pour les parents de donner des conseils à leurs enfants et petits-enfants. Le conseil peut également être sous une forme de conte de fées avant de dormir. Serviteur, au fil du temps, la maison d'Oulu se trouve rarement dans le sud de Sumatra. Si vous êtes intéressé à voir cette maison traditionnelle, vous pouvez visiter le musée Balaputra Dewa à Palembang. La forme de la maison traditionnelle peut être vue à l'arrière-cour du musée et devient la plus grande collection du musée. Selon le record du musée, la maison d'Oulu qui était là a 200 ans et a été prise à partir du village d'Asemklat sous communauté Pangandonan, la résidence Dogan Komeling Ilir. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir avec pour titre « La maison traditionnelle d'Oulu ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À demain!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de quatre coins du monde. Nous nous retrouvons dans le programme « Apprendre l'indonésien ». Aujourd'hui, notre sujet a pour titre « Menanyakan rumah sakit bersalin » ou en français « Demander la maternité ». Écoutez d'abord le vocabulaire et les expressions liées à la conversation d'aujourd'hui. Menanyakan, menanyakan, en français, demander. Rumah sakit bersalin, en français, maternité. Permisi, permisi, en français, excusez-moi. Di sebelah sana, en français, là-bas. Masih jauh, en français, encore loin. Berapa kilometer, en français, combien de kilomètres? Kira-kira 7 kilomètres, kira-kira 7 kilomètres. En français, environ 7 kilomètres. Naik taksi. Naik taksi. En français, prendre un taxi. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Atas bantuannya. Atas bantuannya. En français, à votre aide. Senang. Senang. En français, enchanté. Chers auditeurs, voici le dialogue entre Danou A et Madame Lina B. A. Permisi tuan, saya mencari rumah sakit bersalin. Permisi tuan, saya mencari rumah sakit bersalin. Excusez-moi monsieur, je voudrais trouver la maternité. B. Rumah sakit bersalin ada di sebelah sana. Rumah sakit bersalin ada di sebelah sana. Maternité, là-bas. A. Apa masih jauh? Apa masih jauh? Est-elle encore loin? B. Iya, agak jauh. Iya, agak jauh. Oui, un peu loin. A. Berapa kilometer dari sini? Berapa kilometer dari sini? Combien de kilomètres d'ici? B. Kira-kira 7 kilomètres. Kira-kira 7 kilomètres. Environ 7 kilomètres. Anda bisa naik taksi dari sini. Anda bisa naik taksi dari sini. Vous pourriez prendre un taxi à partir d'ici. Bilang saja rumah sakit bersalin bunda yang ada di Jalan Menteng. Bilang saja rumah sakit bersalin bunda yang ada di Jalan Menteng. Il suffit de dire la maternité bunda à la rue Menteng. A. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas bantuannya. Merci pour votre aide. B. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Merci. Senang dapat membantu Anda. Senang dapat membantu Anda. Je suis heureux de vous aider. Chers amis de l'antenne, c'était Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous allons présenter des chansons pop chantées par groupe de musique Sabila. On va écouter la première chanson intitulée « Ilfil ». chanté par Sabila.
Ku tak lagi cinta kepadamu, meski kamu masih mencintai aku. Dan jangan kau memaksa diriku untuk mencintai dirimu lagi. Ku merasakan sesuatu bila kamu mengkhianati aku. Hingga suatu saat
di Kuta Lavoie, d'Indonésie, de Fosodep, Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons pop chantées par groupe de musique Sabila. Sabila est un groupe formé à Jakarta en 2003. En 1997, Tio, Regi et Denny, et aussi Alam, ont souvent appliqué dans la production des albums des chanteurs indonésiens. Et en 2003, ils ont produit leur album et a lancé 4 ans plus tard par Warner Music Indonesia avec diverses considérations. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Sabila intitulées Obat Luka.
Terimalah
Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson du groupe de musique Sabila. Et avant de terminer cette émission, on va présenter la dernière chanson intitulée Rayuan, chantée par Sabila. Merci à tous et à bientôt.
Kau di mataku, hati ini pun kau buat sejuk. Kamu membuatku terpana, tak bisa bernafas saat ku pegang tanganmu. Satu kata yang ingin ku ucap, bisa bergerak. Ingin ku katakan cinta, cinta kepadamu, wanita impianku. Sudah cukup sempurnakah aku tuk jadi kekasih terakhirmu? Percayalah janji padamu, ku kan setia hingga bertemu di alam yang lain. Bernafas saat ku pegang tanganmu. Satu kata yang ingin ku ucap, tapi bibir tak bisa bergerak. Ingin ku katakan cinta, cinta kepadamu. Cukup sempurnakah aku tuk jadi kekasih terakhirmu? Percayalah janjiku padamu, ku kan setia hingga bertemu di alam yang lain. Percayalah janjiku padamu, ku kan setia hingga bertemu di alam yang.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
serviteurs, c'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.